Jésus et l'argent. La question est compliquée et difficile, peut-être justement parce qu'elle semble trop simple. Et quand on lit l'Évangile, l'impression que l'on a évidemment, c'est que Jésus a des discours très durs contre l'argent, contre la richesse et contre les riches. En effet, il dit même dans l'Évangile de Luc, « Malheur à vous les riches, car vous avez reçu votre récompense ». Où il dira encore qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc a priori, l'affaire semble entendue, la richesse et l'Évangile ne font pas bon ménage. Mais néanmoins, la chose ne me semble pas aussi simple. D'abord parce que Jésus lui-même était-il pauvre ? C'est une question qu'on ne pose pas souvent. Nous sommes tous persuadés, et on nous a appris depuis longtemps, que Jésus vivait dans la plus grande pauvreté. Cela n'est pas du tout évident. D'abord, je ne parle pas du trésor des rois mages qui ont été donnés sur son berceau. Probablement, cela est-ce légendaire et donc il n'y a pas à se demander ce que Jésus en a fait. Mais si on regarde la façon avec laquelle Jésus vivait, son père était artisan. Les artisans n'étaient pas des gens pauvres, ce n'était pas un laboureur ou un berger. On nous dit que Jésus possédait une robe qui était de grand prix, puisque à sa mort, les soldats se la disputent. Or, quand un SDF meurt, la police ne se dispute pas pour prendre les vêtements qu'il a sur le dos. Donc, il avait un vêtement somptueux. Il avait avec ses disciples une cagnotte, et il avait aussi donc un trésorier, comme nous ici, à l'Étoile. Et puis, ses amis étaient loin d'être pauvres non plus. Il avait parmi ses amis des péagers, qui étaient des gens extrêmement riches et qui s'enrichissaient de façon d'ailleurs pas toujours très honnête. Et également, parmi ses amis, il y avait de nombreux pêcheurs, dont Pierre. Et Pierre, lui, était évidemment quelqu'un de riche. Il était en fait patron, je dirais, d'une entreprise de pêche, possédant plusieurs barques, possédant des pêcheurs, des ouvriers. Et Pierre avait une vaste demeure, une maison si grande que Jésus était bien content de la trouver pour aller y habiter souvent ou y résider avec la plupart de ses disciples. Et en tout cas, la maison était suffisamment grande pour qu'on puisse y venir à 13 sans déranger. Donc vous voyez que Jésus n'était certainement pas, quelqu'un qui roulait sur l'or, comme l'on dit, ce n'était pas un puissant, ce n'était pas un riche, comme l'on peut dire. Mais en tout cas, il n'avait certainement pas appliqué ni à lui, ni à ses disciples, le commandement qu'il a donné, pour certaines raisons, au jeune homme riche, de tout donner pour les pauvres, pour ne posséder plus rien. Je pense en effet que l'argent en soi n'est rien de particulier. L'argent en soi, c'est simplement potentiellement beaucoup de choses matérielles, c'est-à-dire que c'est un moyen qui permet d'acquérir certaines choses. Tant que cet argent n'est pas transformé en marchandise, en quelque sorte, il n'est pas une vraie richesse. Et on connaît des gens qui ont vécu très pauvres avec un bas de laine considérable. Ces gens-là, d'une certaine manière, n'étaient pas riches. Et donc, l'argent, c'est potentiellement beaucoup de choses matérielles. Or là encore, je crois que l'Évangile nous montre que Jésus ne dédaignait pas du tout le monde matériel, ni les choses matérielles. Et il a accepté de vivre dans le monde. Contrairement à Jean-Baptiste qui vivait en ascète, ne mangeant pratiquement rien d'autre que des sauterelles et du miel et étant pauvrement vêtu, Jésus est montrant comme profitant du monde, c'est-à-dire comme mangeant bien, buvant bien, étant bien habillé. Et donc Jésus n'était pas un ascète. Or, pour bien manger, pour bien boire, pour être bien logé, et non pas dans le désert, et pour être bien vêtu, il faut de l'argent, soit à soi-même, ou au moins, il faut profiter de celui des autres, comme cette vaste demeure de Pierre dont je parlais tout à l'heure. Et donc Jésus, voyez-vous, malgré ses propos très durs contre les riches, n'a pas craché sur les richesses ni sur les biens de ce monde, et il en a même profité dans la mesure où il pouvait en profiter. Donc tout cela pour dire que le rapport de Jésus avec les biens de ce monde est certainement un peu plus compliqué que ce que l'on pourrait croire. C'est vrai, cela dit, et je comprends pourquoi Jésus a dit ces propos difficiles sur la richesse, c'est vrai que la richesse est un danger, ou tout au moins qu'elle comporte un risque. Et c'est sans doute contre cela que Jésus a voulu nous mettre en garde. Le danger de la richesse, c'est qu'elle nous happe dans des préoccupations très terrestres. La tentation de la richesse, c'est de croire qu'elle est très importante, alors que finalement, elle est très secondaire. Et je pense qu'il y a donc aussi un risque dans la richesse, ou dans l'argent finalement, c'est que d'une certaine façon, elle stimule notre égoïsme et qu'elle encourage notre propre orgueil. Je crois que quelqu'un qui est riche a plus tendance peut-être que quelqu'un qui l'est moins à mettre son cœur dans ses richesses, à croire qu'elles sont importantes, ou tout au moins, comme l'indique Paul dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 7, là, quelqu'un qui possède beaucoup de biens terrestres, eh bien, est obligé de se préoccuper de ses biens terrestres. Et donc, ça va pomper une partie de ses préoccupations, de ses soucis, de son temps, de son énergie et finalement de son être. Et je crois que cela est important et qu'il faut en être conscient, mais que l'on n'est pas obligé de tomber dans ce piège. Et peut-être que ce que Jésus veut dire, c'est qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement le niveau du compte en banque, mais c'est l'état d'esprit que l'on a. On peut comprendre en effet comme cela la première des béatitudes de Matthieu. Quand Luc dit « heureux les pauvres », comme si il disait brutalement que c'était mieux d'être pauvre que riche, Matthieu va en quelque sorte enrichir cette béatitude en disant « heureux les pauvres en esprit ». Alors, il y a plusieurs interprétations sur cette béatitude, mais on peut l'entendre dans le sens de dire que l'important n'est pas d'être pauvre en tant pécuniairement, mais c'est d'avoir un esprit de pauvreté. L'important, c'est donc l'état d'esprit. Et il y a des riches qui ont un esprit de pauvre et des pauvres qui ont un esprit de riche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont accrochés à ce qu'ils possèdent et qui croient que c'est extrêmement important pour eux. Il y a des gens qui ont peu, mais qui sont comme un riche qui s'accroche à son trésor et qui ne veut pas partager. Et il y a des riches qui sont riches, mais qui ont un esprit de pauvreté, parce qu'ils savent que dans le fond, ils ne possèdent rien, et que ce qu'ils ont, ce n'est pas tellement à eux finalement, mais que de toute façon, cela ne leur est que confié. Et donc il y a une façon d'être riche avec un esprit de pauvreté. C'est peut-être aussi dans ce sens que le psaume 62, au verset 11, dit ce que je crois l'attitude la plus sage qu'il y a à avoir par rapport à l'argent, quand le psalmiste dit « Si tu accumules des richesses, n'y mets pas ton cœur. » Oui, « Si tu accumules des richesses, n'y mets pas ton cœur. » Et ça, c'est exactement, je crois, ce contre quoi Jésus met en garde quand il parle de l'argent, ou plutôt quand il parle non pas de l'argent en tant que tel, mais qu'il en parle en l'appelant « mammon ». Vous savez, dans ce célèbre passage où Jésus dit « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et s'attachera à l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre, et on ne peut servir Dieu et mammon ». C'est dans le chapitre 16 de l'Évangile de Luc. Et donc, souvent, Jésus ne parle pas directement de l'argent, mais il l'appelle « mammon ». Et « mammon » est, dit-on, le dieu de l'argent, c'est-à-dire l'argent divinisé. Et Dieu et mammon, c'est de dire que il ne faut pas diviniser l'argent, c'est-à-dire ne pas faire de l'argent un dieu, c'est-à-dire un objet de préoccupation ultime. Et c'est ça qui est dangereux, lorsque l'argent prend la place de Dieu, c'est-à-dire quand l'argent devient un but, au lieu de rester à l'état de moyen qu'il est. Lorsque l'on croit que l'argent est éternel alors qu'il ne l'est pas, lorsque l'on pense que c'est l'argent qui peut donner le sens de notre vie alors que l'argent ne donne aucun sens, lorsque l'on croit que c'est lui qui peut nous donner tous les dons messianiques, c'est-à-dire la paix, la vie, le bonheur, là on est dans l'idolâtrie, dans le danger et dans l'erreur. Parce qu'en effet, tous ces dons la paix, la vie, le bonheur, l'éternité. Tous ces dons sont donnés par Dieu, par la dimension spirituelle, et non pas par les possessions. Et c'est donc cet argent divinisé qui est stigmatisé par Jésus et qui est rejeté. Mais il faut séparer, je dirais, ce qui est de l'ordre du matériel et ce qui est de l'ordre du spirituel. Ce qui est bon, c'est le spirituel, et le matériel n'est pas mauvais, mais il n'est pas de l'ordre du spirituel. Il y a donc une nécessité fondamentale à être capable de séparer les deux règnes et de faire la part des choses. L'argent est une chose, le domaine matériel est une chose, et l'argent est du domaine matériel, et le domaine matériel n'est que le domaine des choses qui passent. Comme le dit Paul encore, nous ne regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, et les invisibles sont éternelles. Et donc le domaine des choses invisibles, ça c'est le domaine du spirituel, qui est un autre domaine, et c'est dans le domaine du spirituel que réside l'accomplissement possible de notre vie. L'Évangile n'est pas dualiste, dans le sens qu'il ne dit pas, je crois, qu'il faille sacrifier l'un pour avoir l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre le matériel et le spirituel, mais il y a simplement indépendance. Et donc l'erreur, c'est lorsqu'il y a confusion entre les deux, et lorsque l'on va croire qu'il y a dans le domaine matériel quelque chose qui touche au spirituel. C'est ça la divinisation de Mammon. Et cette théologie des deux règnes, elle est encore explicitée, je crois, par Jésus dans un autre passage qui met en scène un problème d'argent. Lorsqu'on lui demande de payer l'impôt, et on a l'impression que son élévation spirituelle devrait lui faire refuser de donner de l'argent au pouvoir, et il dit, vous savez, ce célèbre « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César ». Pour dire que ces deux domaines n'ont rien à voir l'un avec l'autre, l'un ne peut rien pour l'autre, sinon soit de prendre sa place, soit éventuellement dans un bon sens de l'orienter et de lui donner un sens. Et c'est là où je voudrais en venir effectivement, c'est que, d'accord, on connaît le danger qu'il y aurait à prendre l'un pour l'autre ou à croire que le monde matériel serait divin, ce qui est le fond de l'idolâtrie. Mais néanmoins, je ne veux pas prêcher une indépendance totale des deux règnes dans la mesure où je crois que l'un peut influer sur l'autre. Le tout est de trouver dans le bon, de le faire dans le bon sens. Et le bon sens, c'est de dire que le spirituel peut orienter le matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à mettre côte à côte et d'une façon indépendante les préoccupations matérielles et les préoccupations spirituelles, mais à penser que la préoccupation spirituelle peut donner du sens à la préoccupation matérielle. C'est d'ailleurs, je crois, un des sens de la demande du Notre Père, quand on dit « que ton nom soit sanctifié ». Vous savez que « sanctifié » veut dire « mettre à part », donner un rôle particulier. Et quand on demande cela, c'est par rapport aux autres préoccupations. Dieu est en effet le sujet même de la préoccupation fondamentale de notre existence, ce qui est pour nous une question de vie ou de mort. Et ce que dit le Notre Père dans ce cas-là, c'est qu'il faut que la préoccupation de Dieu soit mise à part et un rôle à part et particulier de toutes les autres préoccupations. Non pas qu'elle soit plus importante, mais qu'elle soit à part. Et donc, dans notre vie, il n'y a pas, je dirais, d'un côté la préoccupation de l'argent, celle de notre santé, de notre avenir, de nos enfants, de nos vacances, de notre voiture, celle de Dieu et encore d'autres choses. Et il n'y a pas à dire qu'elle serait opposée. Il n'y a pas non plus à dire qu'il faut que la préoccupation de Dieu est quand même soit plus grande que les autres. Il faut qu'elle soit d'une autre nature. Donc nous avons 1000 préoccupations qui ne sont pas mauvaises en soi, et il y a la préoccupation de Dieu qui, elle, est à part, c'est-à-dire qu'elle sort du rang pour donner orientation et sens à toutes les autres, parce qu'elle est d'une autre nature et elle est tout à fait autre chose. C'est elle qui organise, c'est elle qui oriente toutes les autres. Et donc, elle est, et c'est pas une parmi d'autres, c'est une préoccupation qui rejaillit et qui retombe sur toutes les autres préoccupations. Donc la préoccupation de l'argent n'est pas de même nature que la préoccupation spirituelle, elle est simplement à un autre niveau. L'argent n'a pas de sens en lui-même, et c'est pourquoi je pense qu'il faut qu'un sens lui soit donné. L'argent a le sens qu'on lui donne, parce que c'est ce sens que nous cherchons quelque part, qui est donné à toute notre vie, et aussi à ce que nous possédons. Et ce sens, c'est la foi qui est la conviction, la foi qui est l'orientation que nous donnons à notre vie, sa visée, sa façon d'être, nos valeurs, ce en quoi nous croyons fondamentalement. Et c'est ça qui donne sens à notre vie, et c'est ça qui donne sens aussi à la façon avec laquelle nous gérons ce que nous possédons. Peut-être qu'en ce sens, la foi est d'autant plus importante que l'on a de grands biens, parce qu'avoir des grands biens, c'est avoir beaucoup, avoir plus que d'autres du pouvoir, et il est important que ce pouvoir soit bien organisé. Matériellement, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent, vous disais-je, à l'instant, c'est du pouvoir. On le dit par exemple, c'est du pouvoir d'achat. Ou alors l'argent, c'est de la puissance, c'est une puissance économique, c'est de la potentialité. Et comme tout pouvoir, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce au service de quoi on le met. Si on le met, ce pouvoir, au service du bien, alors c'est une chose extraordinaire. Si on le met au service du mal, c'est épouvantable. Si on le met au service de soi ou au service des autres, tout cela va dépendre, je dirais, de l'orientation que l'on donne à ce pouvoir que l'on a. L'argent est donc bon s'il est au service du bien, et il est mauvais s'il est au service du mal. Et s'il n'est que pour son propre confort, eh bien, il est juste nul, ou éventuellement, au pire, preuve d'égoïsme. L'argent peut être bon, parce qu'il peut être source de liberté aussi. On dit souvent que c'est lorsque l'on en possède, que l'on possède suffisamment de richesses, que l'on peut être libéré, je dirais, du devoir de gratter le sol pour se nourrir et ne pas crever de faim. L'argent donne une très grande liberté, et donne du temps, de la disponibilité pour faire autre chose que de survivre. C'est d'ailleurs pour cela certainement que, je dirais, les plus grandes créations de l'art ont été faites, auprès de ceux qui avaient le plus d'argent, parce que l'argent peut dégager de la liberté, du temps, de l'énergie pour faire autre chose et pour créer de l'art. Les gens qui crèvent de faim n'ont pas le temps de faire de l'art et n'en ont pas le moyen. L'argent libère de l'énergie qui permet de faire d'autres choses. L'argent donne du temps. Mais du temps pour faire quoi? Là encore, c'est la même question pour le pouvoir. On dit le temps c'est de l'argent, sûrement. C'est plutôt l'argent qui est du temps. Si c'est pour ne rien faire, alors c'est dommage. Si ce temps est utilisé pour faire du mal, c'est affreux. Au mieux, il peut permettre... Et il peut donner de la disponibilité pour faire des choses bien. C'est en ce sens d'ailleurs que l'Armée du Salut a compris qu'il est bien de prêcher l'Évangile, mais qu'il faut aussi permettre aux gens de sortir de la misère radicale dans laquelle il n'y a même plus de moyen de prier Dieu, avec ce célèbre slogan « Soupe, savon, salut ». Alors, c'est effectivement une chose fondamentale qui montre que la richesse, d'une certaine manière, loin d'être mauvaise, peut permettre d'avoir du temps pour se préoccuper de son salut. Et c'est là, dans l'usage de cet argent, de cette richesse, qu'apparaît la valeur du don, c'est-à-dire que vais-je faire de cette richesse? Et je crois qu'il y a là deux approches possibles. Il y en a une qui est de dire le don de l'argent, c'est un apport raisonnable à une œuvre. C'est-à-dire que l'argent est un moyen de réalisation de quelques projets, et donc l'argent, s'il n'est pas divinisé, peut être bon comme un moyen d'action pour faire le bien, pour réaliser dans ce monde des choses positives. Et en ce sens, l'argent peut participer au développement du monde, voire au projet créateur de Dieu. L'argent peut devenir un moyen d'instrument pour Dieu lui-même, parce qu'une fois de plus, il est pouvoir de transformation dans ce monde. Mais selon Ellul, Jacques Ellul, ce grand penseur protestant, il y a une autre dimension dans le don, qui est, elle, non pas utilitariste comme la première, mais qui est au contraire de l'ordre de la gratuité. Et de dire, il y a dans le don un geste qui, même s'il ne sert à rien, a une valeur fondamentale, parce que le don désacralise l'argent. En effet, le don enlève sa valeur divine à l'argent. Quand on donne pour rien, on montre que d'une certaine façon, l'argent n'est rien, ou en tout cas rien d'essentiel. La possibilité même que quelqu'un a de donner pour rien montre que précisément pour lui, l'argent n'est pas une chose absolue, mais qu'il y a un absolu plus important que cet argent qui lui est fondamentalement relatif. Le don prouve notre liberté à l'égard de l'argent, et le don en tant que tel, indépendamment de toute utilité de ce don, c'est la pénétration de la gratuité dans notre existence et la pénétration de la gratuité dans un monde qui en a tant besoin parce que justement notre monde a tendance à se noyer dans l'utilitarisme, dans l'échange, dans le commerce, dans la valeur de toute chose. Et le don, c'est un pied de nez, je dirais, au monde matérialiste. Le don, c'est un pied de nez au matérialisme. Le don, c'est un pied de nez, je dirais, à l'action pure, en quelque sorte. Mais c'est précisément de montrer qu'il y a quelque chose qui n'est rien et qui est plus que ça, qui est rien matériellement, mais qui est plus que ça. Et en ce sens, l'argent peut prendre une autre valeur, ou plutôt le don peut prendre une autre valeur. C'est que le don peut être considéré non plus par rapport à l'utilité qu'il a, mais peut prendre une valeur absolue en tant que telle. Alors que sinon, on pourrait se demander par exemple s'il est bien utile de donner, si vous donnez quelques euros au cours d'un culte, vous dites mais ça ne sert à rien par rapport au budget global de l'Église, ce sera une goutte d'eau, ou si vous donnez à une œuvre importante, vous pouvez vous dire que ce don ne sert à rien. Mais un don n'est pas mesuré par rapport à sa valeur, il est mesuré par rapport à l'importance du geste que celui qui donne fait. On a encore un passage comme cela dans l'Évangile, à propos de l'offrande de la veuve. Quand Jésus regarde donner, il voit les riches qui donnent beaucoup et la pauvre veuve qui donne une toute petite pièce, et il dit, elle a donné beaucoup plus que les autres, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et c'est pourquoi nous maintenons dans nos cultes une offrande. Vous savez que l'offrande au cours du culte est un peu une absurdité parce que d'abord, elle ne représente que 10%, je crois, de notre budget, l'essentiel étant fait par des dons efficaces et utiles, en quelque sorte. Mais nous maintenons l'offrande parce que, justement, elle est plus qu'un acte de responsabilité. Elle est aussi un acte spirituel de rendre grâce, en quelque sorte, et de convertir l'argent en valeur spirituelle. C'est donc une démarche très profondément religieuse de négation de la divinité de nos propres possessions pour les mettre au service de quelque chose de plus grand. Alors me direz-vous, reste la question de la grâce. C'est qu'effectivement, cette question de la grâce est que l'on n'achète pas son paradis, mais que tout est grâce, tout est don. Et nous sommes invités à vivre dans la logique du don et dans la logique de la grâce. Maintenant, dans notre existence, les choses sont complexes, parce que nous devons garder de l'argent pour nous, pour nos enfants, pour nos projets, pour notre avenir, et aussi pour les pauvres, pour toutes les œuvres qui existent, et aussi pour l'Église. Et à ce moment-là, nous sommes en face d'une sorte de dilemme permanent, qui est que le don se divise et s'éclate et devient impossible. Mais je crois que nous sommes là, effectivement, dans une tension dynamique permanente. Oui, nous devrions tout donner aux pauvres, tout donner à chacune des œuvres les plus méritantes et utiles, les unes que les autres. Nous devrions tout donner à l'Église, tout donner à nos enfants et tout donner pour l'avenir. Mais je crois que c'est justement parce que l'homme est pris dans une sorte d'ambiguïté permanente de l'existence qui fait qu'il ne peut pas, n'étant pas Dieu, tout faire pour tout le monde et pour tout. Et donc nous devons admettre, je dirais, cette espèce d'imperfection profonde et essentielle du monde qui fait que nous ne sommes pas Dieu nous-mêmes. Et donc nous ne sommes pas Dieu pour nos enfants, nous ne sommes pas Dieu pour l'Église, nous ne sommes pas Dieu pour les œuvres, et nous ne sommes pas Dieu pour nous-mêmes. Et donc toute la vie n'est qu'une sorte d'énorme bricolage par lequel nous essayons de faire au mieux comme nous le pouvons, mais avec une véritable conviction que ce que nous faisons, eh bien nous le faisons de tout notre cœur. Ensuite, il y a évidemment toujours cette dimension essentielle de la grâce, c'est que quoi que nous faisons, nous sommes invités à le faire avec cette dimension de la gratuité. C'est-à-dire que le don, ce n'est pas un achat, le don c'est un don. Et il y a cette gratuité fondamentale qui y est. C'est cela aussi que l'on trouve dans la parabole. Décidément, il y a beaucoup de textes, voyez, sur les richesses et l'argent dans l'Évangile, sur la parabole des richesses injustes. Quand le maître loue le serviteur qui dilapide son bien en remettant les dettes à d'autres, il nous montre que le mieux que nous ayons à faire avec les richesses injustes que nous avons, ce n'est pas de les dilapider pour notre propre plaisir, mais c'est de donner aux autres pour se faire des amis, c'est-à-dire de convertir l'argent matériel en amour et en relations humaines, en valeurs humaines. Parce que je suis persuadé, voyez-vous, que toute richesse matérielle, en fait, est fondamentalement injuste. Et c'est pourquoi notre parabole des richesses injustes nous concerne. Parce que nous sommes tous des serviteurs de ces richesses injustes. Les richesses sont toutes injustes, parce que nous n'avons pas mérité d'être parmi les 2-3 plus riches Français, du pays, et nous n'avons pas mérité d'être dans le pays qui est aussi parmi les 2-3% les plus riches du monde. Nous n'avons pas mérité d'être ici plutôt que de crever de faim en Éthiopie. Nous n'avons rien mérité. Et même l'argent que vous gagnez par votre industrie, par votre mérite, par votre travail, vous ne l'avez pas mérité non plus, parce qu'il y a une richesse fondamentalement injuste que vous avez peut-être hérité, je dirais, c'est la force de caractère, c'est la qualité même de son être, la capacité même à travailler et à s'organiser et à faire des choses. Ça, c'est une richesse extraordinaire qui peut déboucher sur des richesses matérielles, mais que nous n'avons pas mérité non plus. Il y a des gens qui n'ont aucun moyen matériel et qui n'ont même pas la ressource de caractère pour s'en sortir. Et donc toute richesse, tout ce que nous possédons, notre santé, nos biens, tout cela, ce sont des richesses injustes. Nous ne méritons rien, mais il faut justement vivre tout cela comme des richesses injustes, c'est-à-dire comme des grâces. Des grâces non pas que Dieu ait voulu à nous offrir quelque chose qu'il ait refusé à d'autres, mais comme quelque chose que nous avons sans raison, c'est-à-dire gratuitement et pour rien. Et ce que nous sommes invités à faire de ces grâces, c'est justement de faire à notre tour grâce et de remettre des dettes comme les serviteurs infidèles à d'autres qui eux-mêmes ont aussi des difficultés. Et cette chance que j'ai, je la partage un peu avec les autres. Je peux en faire profiter d'autres qui sont peut-être moins directement chanceux que moi. Et il y a là, dans cette parabole, un saint gaspillage qui est assez étonnant, qui est tout à fait encouragé par l'Évangile. Alors même qu'il nous dit de nous sentir responsables des dons qui nous sont confiés dans la célèbre parabole des talents, il y a aussi dans l'Évangile de nombreux passages louant le gaspillage, comme dans la parabole justement du serviteur infidèle, ou encore dans l'histoire de la femme au parfum, qui gaspille l'argent d'un parfum de grand prix, dont les autres disent qu'il aurait mieux valu le vendre pour le donner aux pauvres. Et Jésus dit, mais non, il y a là une sorte de gaspillage formidable qui est fait, qui contrebalance, je dirais, cet aspect utilitariste des talents qui visent à être rationnellement responsables de ce que l'on possède. L'important, c'est donc d'avoir cet esprit de pauvreté, de savoir qu'on possède comme ne possédant pas vraiment, et avoir possédé sans être attaché outre mesure. En fait, tout est grâce, et tout est transcendé par la grâce, et tout prend sens par la grâce. Ça, c'est vrai pour nous. Nous sommes invités à vivre sous la grâce et de la grâce et pour faire grâce. Et c'est vrai pour cette partie de notre vie terrestre qu'est l'argent ou les possessions. Nous sommes invités à les vivre comme une grâce, pour faire grâce, en rendant grâce et en faisant grâce. C'est ça qu'exprime le Christ dans cette phrase qui semble un peu contradictoire mais qui est essentielle. Quand il envoie ses disciples en mission dans le monde, il dit, et c'est là je crois le fin mot de l'histoire, « Comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen.